Guillaume fut vraiment un grand homme. Et si la grandeur des princes se mesure, comme il faut bien que cela soit, par la difficulté des œuvres et par l'importance des résultats, il n'y en a pas beaucoup qui lui soient supérieurs. Extrait du discours de François Guizot lors de l'inauguration d'une statue équestre de Guillaume le Conquérant à Falaise en 1851.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1066, le roi Édouard le Confesseur d'Angleterre meurt sans laisser de descendants. Le jour de son enterrement, un des plus puissants seigneurs d'Angleterre, Harold Godwinson, se fait couronner avec les personnalités les plus importantes du royaume qui ont accepté qu'il prenne la couronne. Il est effectivement un des plus riches d'Angleterre et le roi défunt l'aurait finalement désigné comme son successeur quelques jours avant de mourir. Seulement le problème, c'est qu'en 1051, donc une quinzaine d'années auparavant, Édouard le Confesseur avait promis le trône à un autre homme, Guillaume, duc de Normandie. Celui-ci était devenu duc à l'âge de 8 ans, en 1035. C'est un homme, autant qu'on puisse le savoir, qui avait reçu une éducation assez policée. C'était un homme de guerre. Bref, un homme d'État, selon les critères du XIe siècle. Et vu de Normandie, le couronnement d'Harold serait donc un parjure, qui justifierait la conquête du royaume par Guillaume. Mais ce qui vient un peu brouiller encore les cartes, c'est qu'un troisième homme se déclara digne d'être le successeur d'Édouard le Confesseur. Il s'agit de Harald, roi de Norvège, qui aurait passé un accord avec le père d'Édouard. Et le roi de Norvège tente d'envahir l'Angleterre par le nord le 20 septembre 1066, mais 5 jours plus tard, à Stamford Bridge, près de York, Harald est tué lors d'une bataille l'opposant à Harold, et donc la lutte pour le trône d'Angleterre sera donc un jeu à deux. Le duc de Normandie lance la préparation de son armée dès le début de l'année 1066. Mais il le fait avec prudence et méthode. Il s'agit d'abord de convaincre ses vassaux de le suivre dans cette aventure. Le jour de Pâques 1066, il convoque une assemblée à Lillebonne, où malgré des débats, la décision est effectivement prise de partir à la conquête d'un trône qui lui reviendrait. Il est vrai que, intelligemment, laissant passer l'été, le duc Guillaume a laissé également les deux adversaires potentiels s'affaiblir mutuellement, puisque Harald, roi de Norvège, et le roi Harold d'Angleterre s'était épuisé tout de même et avait perdu des hommes lors du combat du 25 septembre. Et puis, partir en Angleterre, c'est complexe, parce que cela suppose d'avoir une flotte qui fasse traverser la Manche, ou en tout cas le détroit de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pas-de-Calais. Alors, combien d'hommes sont préparés pour aller jusqu'en Angleterre? Certaines chroniques avancent le chiffre de 150 000. Évidemment, ce chiffre est parfaitement farfelu. Peut-être qu'au maximum, 14 000 hommes ont participé à l'expédition. Mais les historiens ont peut-être revu à la baisse en estimant que déjà, si 10 000 hommes ont réussi à traverser, c'est un exploit pour l'époque. Parce que cela suppose de très nombreux bateaux et de très nombreuses provisions. En tout cas, la flotte du duc Guillaume part, sans doute le 28 septembre au soir, pour aller vers l'Angleterre. Et ils sont partis, dans un premier temps, de Saint-Valery sur Somme. Et ils débarquent sur la plage de Pevensey. le roi Édouard va finalement décider d'affronter son adversaire. Une bataille dans la zone d'Hastings va donc se dérouler. Nous sommes le 14 octobre 1066. Le combat débute à 9h du matin. Alors évidemment, si on en croit la tapisserie de Bayeux, le beau rôle est laissé à la cavalerie. Mais on peut se demander si justement les promoteurs de la tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire le duc Guillaume, devenu roi d'Angleterre, n'a pas voulu accentuer considérablement le rôle des chevaliers. Il est donc possible que ont joué également un rôle des fantassins, des valets à pied, qui ont pu jouer un rôle stratégique durant la bataille. Donc ce combat débute en début de matinée, 9h. La première phase est favorable aux Anglais. Le corps central, des soldats professionnels, armés de haches pour la plupart, constitue un véritable mur. Et l'aile gauche de l'armée normande de Guillaume, qui est composée entre autres d'alliés bretons, finit même par céder. Et des paysans armés, poursuivant justement les fuyards, infligent de lourdes pertes. Mais Guillaume ne panique pas. Il semble qu'il ait profité au contraire de la situation pour entreprendre un mouvement tournant, pour prendre à revers les Anglais qui était descendu de la colline où il se trouvait au début du combat, afin de faire poursuite à ceux qui étaient en train de se replier. Et cette aile qui avait descendu la colline a été cernée et décimée par des chevaliers normands. Quelques heures plus tard, peut-être en milieu de journée, c'est au tour de l'aile droite de Guillaume de céder. Et là encore, et par un mouvement tournant, Guillaume réussit à rétablir la situation. Au point que certains historiens se sont demandé si, éventuellement, ce n'était pas une stratégie réfléchie et voulue par Guillaume, c'est-à-dire de laisser croire à une retraite, à une fuite, pour attirer l'adversaire et mieux le piéger. Ce qui est certain, par contre, c'est que la victoire arrive à Guillaume. Elle a longtemps été incertaine, mais un élément déterminant va faire pencher la balance, c'est que le roi Harold meurt. Et qui plus est, il meurt, si l'on en croit la tapisserie de Bayeux, en recevant une flèche dans un œil. Et ceci est rapporté également par le chroniqueur Baudry de Bourgueil. Est-ce qu'il est vraiment mort dans ces circonstances ? Ce n'est pas une certitude absolue, mais toujours est-il qu'effectivement, Dieu semble avoir choisi son camp, puisque le roi Harold trouve la mort. Et qui plus est, son étendard est également pris. De plus, quand on trouve le cadavre d'Harold, il semble avoir été terriblement mutilé. Alors que la nuit tombe, Guillaume ordonne de poursuivre et de tuer les fuyards de l'armée d'Harold, et disent les chroniqueurs, plusieurs milliers de corps jonchent le champ de bataille. Au demeurant, les batailles médiévales ne sont pas forcément, à cette époque-là, extrêmement sanglantes. Georges Duby a insisté sur le fait que souvent, ce sont des combats presque individuels de chevaliers. Mais là, pour la bataille d'Hastings, il est fort probable qu'effectivement, au regard de l'enjeu de la bataille, c'est-à-dire le sort de l'Angleterre et du trône d'Angleterre, eh bien, il y ait eu des moyens humains relativement conséquents qui peuvent avoir expliqué qu'il y ait eu plusieurs milliers de morts. Quant à Guillaume, eh bien, il fera construire à l'endroit même de la bataille une abbaye qu'il confiera à l'ordre des bénédictins et qui sera achevée en 1087, soit une vingtaine d'années après la bataille. En attendant, eh bien, il marche vers Londres, vers la capitale, et il est sacré le jour de Noël de l'an 1066. C'est alors donc que s'est constitué, pour la fin du XIe siècle, tout le XIIe siècle, et jusqu'à l'extrême, les premières années du XIIIe siècle, une vraie puissance sise de part et d'autre de la Manche qui alliait l'Angleterre avec les possessions du duc de Normandie, qui était d'ailleurs beaucoup plus large que la seule Normandie. Ce fut ce que l'on a pu appeler l'Empire des Plantagenets.